Radio France Internationale, 13h30 à Paris, midi et demi en temps universel. C'est l'heure d'Afrique Midi, présentée par Fabien Albert. Bonjour Fabien.
Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous. Jour de vote sur l'île Maurice. Les élections législatives anticipées se tiennent ce dimanche. Les bureaux de vote ferment dans un peu plus d'une heure. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Port-Louis dès le début de cette édition. Soutien total et continu aux pays africains. Vladimir Poutine fait passer un message au sommet de Sotchi lors d'une conférence ministérielle Russie-Afrique. Développement durable, lutte contre le terrorisme, santé, plusieurs sujets ont été abordés. La Kuruwa, nom du nouvel ennemi de l'armée nigériane, le mouvement armé a mené des raids à la frontière du Niger selon l'armée. Les explications à venir dans cette édition. Brazzaville à sec, les pénuries de carburant se multiplient depuis près d'un mois. Colère et incompréhension dans la population. Le ministre des hydrocarbures a été sommé de réagir. La 27e édition du Salon international du livre d'Alger à l'honneur dans Afrique Midi, en parrain cette année le Qatar. Et puis un mot de sport avec la Basket Africa League. Les deux équipes qualifiées pour la phase finale l'année prochaine sont connues. Il s'agit du Stade malien et des Libyens d'Al Ahly Tripoli. Les Mauriciennes et Mauriciens ont encore un peu plus d'une heure pour exprimer leur choix. Ce dimanche ont lieu les élections législatives anticipées. 1 million d'électeurs sont appelés à désigner le futur chef de l'exécutif. Cela se jouera entre le Premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, et son challenger, Navin Ramgoolam. Abdoulaye Rally, vous êtes notre correspondant sur place. Depuis le début de la journée, vous avez pu observer une forte mobilisation.
Oui, à 1h30 de la clôture du scrutin, la participation s'annonce même exceptionnelle selon certains observateurs ici. Elle pourrait dépasser 80% contre 74% lors des législatives de 2019. Cette forte mobilisation reflète l'importance des enjeux dans un pays qui compte pour la première fois plus d'1 million d'électeurs, vous l'avez dit. Dans les 340 centres de vote, l'ambiance est sereine. Aujourd'hui, les Mauriciens se présentent en famille, sans bousculade. Si le système électoral est bien rodé, quelques incidents ont été toutefois signalés. Des électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes, ce qui alimente les craintes de fraude exprimées par l'opposition, d'ailleurs depuis quelques jours, dans un contexte de crise de confiance dans les institutions. Plus d'un million d'électeurs sont appelés à départager, en effet, deux poids lourds de la politique locale dans ces législatives cruciales.
Les deux leaders politiques, donc, qui s'affrontent, c'est un duel et le verdict sera connu demain.
Oui, l'affrontement politique oppose deux figures majeures. Le Premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, 62 ans, qui brigue un troisième mandat à la tête de l'Alliance du Peuple, et Navin Ramgoolam, leader, lui, de l'Alliance du Changement. Ce vétéran, qui a déjà occupé 3 fois le poste de Premier ministre, apparaît encore une fois comme un opposant redoutable, malgré son âge de 77 ans. Les résultats de ce duel au sommet seront connus demain après-midi, après le dépouillement des bulletins de vote dans des centres dédiés.
Abdoulaye Rally en direct de Port-Louis dans ce journal. Merci Abdoulaye. Vladimir Poutine promet un soutien total et continu de la Russie aux pays africains dans différents domaines. Déclaration du président russe lue par son ministre des Affaires étrangères devant les hauts responsables d'une 50aine de pays du continent réunis à Sotchi ce week-end pour une conférence ministérielle Russie-Afrique. Développement durable, lutte contre le terrorisme, santé et gestion des catastrophes naturelles. Vladimir Poutine dit espérer renforcer l'ensemble des liens russo-africains, selon ce message lu aux participants par Sergueï Lavrov.
Nous sommes heureux de constater que le rythme impulsé par les 2 sommets précédents contribue à développer nos relations de manière croissante. Nous constatons des progrès dans tous les domaines, avec une augmentation significative du nombre de contacts au plus haut niveau et au niveau ministériel. En particulier, lors des réunions bilatérales en marge de la conférence actuelle, des accords ont été conclus sur plusieurs projets spécifiques. Des accords et des mémorandums ont été signés dans divers domaines.
Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Une nouvelle tentative de déstabilisation a été déjouée au Burkina Faso, indique le gouvernement. Selon la télévision publique, un individu dont l'identité n'a pas été dévoilée a tenté de corrompre des soldats afin que ces derniers renversent le régime du capitaine Ibrahim Traoré. L'homme a été interpellé et la somme de 5 milliards de francs CFA saisie, un peu moins de 8 millions d'euros. Selon les autorités, l'enquête se poursuit pour identifier les complices et l'ampleur de ce nouveau complot. Ouagadougou, qui envisage le rétablissement de la peine de mort, sentence abolie en 2018 dans le code pénal. La question est discutée, a déclaré ce vendredi le ministre burkinabé de la Justice. Au Nigeria, l'armée déclare faire face à une menace sécuritaire supplémentaire dans le nord-ouest du pays. Selon l'armée nigériane, un nouveau mouvement armé nommé l'Akourawa a mené des incursions dans les états de Sokoto et de Kebbi, deux états frontaliers du Niger, Amélie Tulé.
Le porte-parole de l'armée nigériane fait un lien entre le coup d'État de juillet 2023 au Niger et l'émergence de ce nouveau groupe armé dans le nord-ouest du Nigeria. Pour le général de division Edward Bouba, le renversement à Niamey de Mohamed Bazoum il y a un peu plus d'un an par les militaires du CNSP a perturbé un temps les patrouilles conjointes à la frontière. Depuis, elles ont pu reprendre, mais l'armée nigériane dit rester vigilante dans un contexte où le nord-ouest du pays est déjà confronté depuis des années aux gangs armés et à la multiplication des kidnappings contre rançon. Selon la plateforme d'investigation nigériane Youmangle, contrairement aux déclarations officielles, il ne s'agit pas de l'émergence d'une nouvelle menace, mais plutôt de la résurgence d'un mouvement ayant déjà mené des incursions dans l'état de Sokoto il y a 6 ans. L'Institut néerlandais des relations internationales Klingendel rappelle en effet qu'en octobre 2018, un groupe soupçonné d'être affilié au mouvement État islamique avait d'abord été bien accueilli au niveau local. Les villageois surnommaient l'Akourawa les membres de ce mouvement qui offrait une protection contre les bandits, avant qu'ils n'essaient d'imposer aux habitants une gouvernance stricte sur le modèle du groupe État islamique.
Les précisions d'Amélie Tulé. En Côte d'Ivoire, plusieurs vendeuses de rue guinéennes accusent des policiers municipaux de les avoir violemment agressées à Abidjan. 5 plaintes ont été déposées. L'affaire intervient alors que le commerce ambulant est interdit sur les grandes artères du district autonome. Tout est parti d'une vidéo devenue virale. L'on y voit une des plaignantes qui exposait son dos, ses fesses et ses cuisses recouvertes de large ecchymose après un passage à tabac. Un incident tel que la diplomatie guinéenne a réclamé des explications. Fin octobre, le chargé d'affaires ivoirien à Conakry a été convoqué. Notre correspondant Benoît Almeras a pu recueillir le témoignage de la victime. Écoutez son récit.
Son visage se crispe encore de douleur. Véronique a 32 ans. Elle raconte son histoire. Il y a 3 semaines, des agents en noir l'arrêtent sur la route de l'aéroport avec d'autres vendeurs de rue.
Ils ont commencé à nous frapper, maltraiter là. Ils ont rassé nos sacs, mon portable.
La mère de famille est conduite dans un local. Là, un homme non identifié la déshabille de force avant de la tabasser.
Il était masqué. Je ne connais même pas quelle personne qui me faisait ça. Il nous a maltraité. L'homme, tu ne connais pas là. Il ne te connaît pas. Et puis...
Véronique s'évanouit. Ses proches parviennent à la secourir et filment ses blessures.
Trop, c'est trop. On nous a trop fait. Mais ça, là, c'est débordé.
Face au choc, l'ambassadeur de Guinée appelle les victimes comme Véronique à déposer plainte. Depuis, Gérard Lecadou de l'association ivoiro-guinéenne ABA Afrique aide les plaignantes.
Et nous attendons le résultat des enquêtes pour démontrer qu'il n'y a pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Des femmes qui sont déjà assez vulnérables, elles ne méritaient pas ce traitement.
Joint par RFI, le ministère de l'Intérieur dit attendre les conclusions de l'enquête. L'ambassade de Guinée, elle, délivre des cartes consulaires pour ses ressortissantes. Une protection juridique pour les vendeuses à la sauvette. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, où, sans surprise, Pascal Affine-Guessan a été reconduit à la tête du Front populaire ivoirien et désigné candidat du parti à la présidentielle. L'ancien Premier ministre a récolté 99% des suffrages de ses pairs. Le FPI était réuni en congrès ce week-end à 11 mois du scrutin. C'était à Yamoussoukro.
Brazzaville. 93.2 FM.
RFI, où il est 13h39 à Brazzaville, donc capitale congolaise privée de carburant depuis près d'un mois. D'importantes pénuries perturbent le trafic et suscitent la colère des conducteurs. Le ministère des hydrocarbures a réagi. Pour le gouvernement, la situation s'explique par des problèmes techniques au niveau de la raffinerie nationale. À Brazzaville, la correspondance de Loïcia Martial.
Dans cette station-service du centre-ville de Brazzaville, la file de voitures s'étend sur des dizaines de mètres. Les chauffeurs attendent depuis de longues heures, comme ce père de trois enfants.
Moi, je suis chauffeur de taxi. Je suis venu ici à la station faire la queue pour attendre le carburant. Bon, moi, mon véhicule est garé, ça fait de cela une semaine que je ne travaille pas. Donc aujourd'hui, j'espère bien avoir le produit et pour que je travaille demain. Ben, ça ne m'arrange pas du tout parce que... Moi, étant que chauffeur de taxi, je vis au quotidien. C'est-à-dire, si je travaille aujourd'hui, ça me permet de nourrir ma famille.
De l'autre côté de la station, un fonctionnaire à la retraite qui s'appuie sur une canne cherche désespérément un taxi pour rentrer chez lui dans le 5e arrondissement. Le prix de la course est passé du simple au double.
Quand il y a pénurie, il y a difficulté d'emprunter un taxi. Mais quand on emprunte le taxi, on ajoute quelque chose dessus pour vite arriver.
Une source au ministère des hydrocarbures indique que cette pénurie est la conséquence de, je cite, « des problèmes techniques au niveau de la raffinerie nationale, qui n'assure que 60% des besoins du pays ». Par ailleurs, le Congo-Brazzaville fait aujourd'hui face à des problèmes financiers qui peuvent expliquer les difficultés d'importation de produits pétroliers. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
La 27e édition du SILA bat son plein en Algérie. Le Salon international du livre d'Alger refermera ses portes le week-end prochain. Chaque année, le salon attire un grand nombre de visiteurs. Pour cette 27e édition, le Qatar est le pays invité d'honneur. Un espace est consacré à l'Afrique où se déroulent des débats sur la littérature et sur d'autres sujets culturels qui intéressent le continent. Reportage de notre correspondant Faisal Metaoui.
Les débats tournent sur la littérature, l'histoire, le patrimoine et les langues. L'auteur Conan Kouadio est intervenu sur la littérature contemporaine en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est un pays qui a connu de grands noms, les Bernard Dadier, les Amadou Kourouma. Aujourd'hui, la jeune génération essaie de suivre les traces et même d'honorer en faisant mieux. Rafle des prix sur le plan national que sur le plan international.
L'éditeur algérien Karim Chir soutient l'espace Afrique et publie des ouvrages du continent.
On a lancé la collection Résonance, dans laquelle on peut trouver Sami Tchak, dans laquelle on peut trouver Habib Tengour, Atierno Moninambo, Yatanila Bonnet, Louis-Philippe d'Alembert, Patrice Nganang, le Camerounais, dans laquelle on a intégré quelques auteurs algériens, une manière aussi d'intégrer l'auteur algérien dans son contexte continental.
Mehdia est une grande lectrice des romans africains. Elle ne rate aucun débat à l'espace Afrique.
Aujourd'hui, plus que jamais, cette revendication de notre part africaine, elle est de plus en plus présente. D'ailleurs, l'an dernier, le SILA, l'invité d'honneur, c'était l'Afrique, le continent. C'est intéressant aussi qu'on se rappelle, c'est bien que nous sommes africains en premier lieu.
Le 27e Salon international du livre d'Alger se poursuit jusqu'au 16 novembre 2024. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Si là où, au grand regret des visiteurs et des auteurs, le prix Goncourt du franco-algérien Kamel Daoud n'est pas présent, Gallimard, la maison d'édition, a été interdite d'y présenter Ouris, récompensé par le plus prestigieux prix littéraire français il y a une semaine. Une page sport à présent dans Afrique Midi, d'abord avec la Basket Africa League. Depuis hier, nous connaissons les deux équipes de la division Ouest qualifiées pour la phase finale de la compétition. Ce sera l'an prochain. Le stade malien et les Libyens Al Ahly Tripoli ont validé leur billet à l'issue des demi-finales disputées toutes les deux à Abidjan. Le club de Bamako a largement dominé les Camerounais de la Kanji Sport Academy 80-57. La formation libyenne, elle, a eu beaucoup plus de mal à battre les Ivoiriens d'ABC Fighters 80-76. Molamine Sissavané a suivi les rencontres du bord du parquet.
La porte du vestiaire transformée en darbouka, les Tripolitains fêtent leur victoire sur l'ABC qui a cru pouvoir mettre fin à leur invincibilité en dominant le deuxième et le troisième quart-temps. Mais à près de deux minutes de la fin, porté par un Kevin Murphy impitoyable, auteur de 36 points, Al Ahly renverse la vapeur. Le coach Fouad Bouchakra.
Ils ont très bien joué le ABC Fighters. Ils ont très bien tiré le premier mi-temps. On était mal offensivement. On a fait une très bonne défense. On avait toujours un esprit très fort pour gagner. C'était pas facile, mais on a gagné. Alhamdoulilah, c'était un très bon match.
Un peu plus tôt, les Bamakois, comme à la maison, avaient raflé le premier ticket.
Abidjan nous a toujours souri. Il y a beaucoup de fans du Stade Malien à Abidjan.
Kaba Kanté, directeur technique du Stade Malien, stratège face à Kadi Sport.
On a profité de leur faiblesse, surtout les replis défensifs chez eux. Les replis là, on a profité pour accélérer. Dieu merci, on est là. Et avec la qualification en poche.
Les deux qualifiés seront opposés ce dimanche dans une finale sans enjeu majeur. Les deux perdants, eux, vont jouer la troisième place. Il se peut qu'un troisième ticket qualificatif soit attribué, nous a confié un responsable de la FIBA, Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Du football à venir aussi ce dimanche avec la Ligue des Championnes d'Afrique, compétition qui réunit les 8 meilleures équipes du continent, suite de la première journée ce dimanche avec deux matchs au programme cet après-midi, le Mamelodis contre le Massar et la Banque Commerciale Éthiopienne affronte les Nigérianes d'Edo Queens. Et puis un mot de rugby également avec le début de la tournée d'automne en Europe pour les champions du monde sud-africains. Les Springboks affrontent l'Écosse à Murrayfield, coup d'envoi à 16h10, temps universel. Pour l'heure, il est 12h45, temps universel, 13h45 ici à Paris.
Afrique Midi, Fabien Albert.
À suivre dans la deuxième partie d'Afrique Midi, votre chronique Chemin d'écriture avec Les Égarés, le nouveau roman d'Ayana Matisse, ouvrage qui vous plonge dans les grandes questions qui divisent l'Amérique. La 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar a débuté cette semaine. L'Afrique en marche y était et dresse un constat, l'art contemporain africain à le vent en poupe. Et puis Maria Afonso à la rencontre du fondateur de Picture, une marque de vêtements techniques pour le sport de plein air. Ce sera peu avant 14h dans 100% création. Votre chronique, chemin d'écriture, les folles années 1980, les Noirs américains aux prises avec les suprémacistes, la fracture sociale, tels sont quelques-uns des thèmes du nouveau roman de l'américaine Ayana Matisse. Tirthankar Chanda, avec Les Égarés, l'auteur du best-seller Les 12 tribus d'Ati, livre un récit puissant d'engagement et de quête de nouvelles utopies.
Vous vous en souvenez sans doute, dans notre première approche de ce nouvel opus d'Ayana Matisse, dimanche dernier, nous avions parlé du prologue du roman en nous interrogeant sur la symbolique des noms propres dans les premières pages du livre. Nous y avions aussi fait la connaissance du protagoniste, l'adolescent Toussaint Wright, errant dans les rues de Philadelphie.
Et nous étions alors dans les années 1980.
Nous y sommes toujours, car le récit que raconte ce livre est campé dans ces années fatidiques lorsque, selon l'auteur, les graines d'un nouveau cycle de turbulences furent jetées. Le roman s'ouvre sur Toussaint se remémorant son arrivée à Philadelphie 3 ans auparavant, le passage dans des foyers miteux pour les sans-abri. Une majeure partie de ce récit est racontée en flashback par les personnages principaux du roman qui sont, outre Toussaint, sa mère Ava, qui souffre d'une dépression nerveuse, et sa grand-mère Datiès, qui, elle, vit à Bonaparte, un patelin dans l'Alabama, où elle est aux prises avec les suprémacistes blancs de plus en plus puissants. À travers les heures et malheurs de ces trois générations, le roman raconte les luttes pour la survie des Africains américains dans l'Amérique contemporaine, où, au nom du progrès, les droits des minorités sont piétinés. Ayana Matisse a bâti l'intrigue des Égarés en mêlant habilement les luttes sociales et leurs répercussions sur la psychologie des protagonistes. Les Égarés, c'est d'abord une saga familiale, comme l'explique Matisse.
Le passé, le présent et le futur sont incarnés dans ce roman par ces trois protagonistes. Mais Les Égarés n'est pas seulement un roman historique, c'est aussi une saga familiale. Ces personnages, Duchess, Ava et Toussaint, font partie d'une famille éclatée. Ils ne se connaissent plus vraiment et peinent à retrouver le chemin de la réconciliation. Leur méfiance les uns des autres se nourrit des 1000 kilomètres qui séparent l'Alabama de Philadelphie, mais aussi de leurs conflits anciens comme récents, ainsi que de leurs malentendus.
Une fiction familiale nourrie par l'histoire, telle semble être la marque de fabrique de la prose narrative d'Ayana Matisse. Qui sont les Égarés, Tirthankar ?
C'est une allusion au parcours historique des Africains américains dont le destin a été détourné par la traite. Ils sont les véritables protagonistes d'Aena Matisse, comme elle l'a confié au micro de RFI.
Les personnages de mes romans sont pour l'essentiel des Africains américains. Ce sont souvent des femmes pauvres qui vivotent en marge de la société. Ce sont des êtres magiques, sources inépuisables de fascination pour moi, de chagrin aussi et de moult confusion. Mes personnages sont le prisme à travers lequel j'appréhende le monde pour tenter d'en saisir le dessin.
Ce saisissement du monde passe aussi par le retour aux utopies anciennes sur lequel se clôt ce bel et émouvant roman.
Les égarés par Aena Matisse aux éditions Gallmeister. Merci Thierry Tancard. À la une de l'actualité internationale, Donald Trump remporte officiellement l'état de l'Arizona aux États-Unis, 7-7 pour le républicain dans les swing states. La victoire à la présidentielle américaine de Donald Trump est totale, elle s'est confirmée. Joe Biden recevra mercredi dans le bureau ovale son pire ennemi politique. Le président sortant a assuré vouloir un transfert du pouvoir dans le calme, espérant faire baisser la température dans un pays à cran. Le Kremlin a estimé que Donald Trump avait montré des signaux positifs concernant la position du président élu américain sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les signaux sont positifs. Trump, pendant sa campagne électorale, a dit qu'il perçoit tout cela via des accords et qu'il peut obtenir un accord qui amène à la paix. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, dans une interview diffusée ce dimanche. Au moins 20 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une frappe israélienne qui a visé une localité chiite située dans une région majoritairement chrétienne au nord de Beyrouth. C'est ce qu'a indiqué le ministère libanais de la santé. Et puis, top départ pour la 10e édition du Vendée Globe. 40 skippers ont démarré l'aventure du Tour du Monde en solitaire à 12h temps universel, acclamé par des centaines de milliers de personnes au Sable d'Olonne dans l'ouest de la France.
L'Afrique en marche.
Dans l'Afrique en marche, nous nous intéressons aujourd'hui à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Elle a ouvert ses portes, cette biennale, en milieu de semaine. Illustration d'un véritable essor de l'art contemporain africain. Les galeries et les fondations se multiplient, les artistes du continent accèdent à une notoriété de plus en plus grande et la vente de leurs œuvres continue d'augmenter, Frédéric Gara.
Sculpteurs, peintres ou photographes, les artistes contemporains du continent ont le vent en poupe. Selon Art Basel en Suisse, l'un des principaux marchés internationaux d'art contemporain, les artistes africains ont vu les ventes de leurs œuvres passer de 47 millions de dollars en 2021 à 63 millions l'année suivante. L'une des conséquences de ce succès, c'est la multiplication des lieux d'exposition en Afrique. Yacouba Konaté, directeur de la galerie de la Rotonde des Arts, l'une des premières à Abidjan.
Si je prends l'exemple d'Abidjan, en 2006, il y avait peut-être 3-4 galeries, mais l'année dernière, on était 11. Ce qui renvoie aussi à l'effectif de plus en plus grand d'artistes pertinents. Moi, j'en reçois au moins 5 par semaine qui viennent me montrer ce qu'ils veulent faire. Et puis, tu as des collectionneurs qui commencent à s'intéresser à cet objet, dans la mesure où tout le débat sur le patrimoine, on incite chacun à comprendre que le patrimoine de demain, c'est l'art contemporain d'aujourd'hui.
Un patrimoine artistique qui a besoin d'être accompagné dans son émergence. Au Cameroun et en Tunisie, par exemple, l'Agence française de développement soutient 2 centres artistiques. Gaëlle Mareuge est la responsable des industries culturelles et créatives à l'AFD.
On a le projet qui s'appelle Bantun Station au Cameroun, qui est porté par Barthélémy Togo, qui a pour objectif de rehausser le niveau et la qualité de production des filières artisanales en Afrique. L'idée, c'est de stimuler la création avec des résidences d'artistes, des œuvres monumentales, de favoriser la professionnalisation des artistes. Sur Afrique Créative, c'est le projet Cloud Visual Art en Tunisie, parce qu'il propose en fait d'utiliser la plateforme Archive Art qu'ils ont, donc c'est Wafa Gabzi et Khalil Liwan. C'est aussi une plateforme d'expertise en fait dans l'art contemporain. C'est d'avoir en fait une galerie virtuelle pour refléter aussi les tendances digitales contemporaines.
Autre effet du succès artistique, la volonté pour ces plasticiens reconnus internationalement de revenir dans leur pays pour s'investir dans des structures ou des ateliers de création. Olivier Sultan, directeur de la galerie photo RZ à Paris.
Ça, c'est un phénomène relativement nouveau et que je trouve vraiment très important parce que quand on regarde l'essor de l'art contemporain, que ce soit occidental ou chinois ou américain, ça a toujours été accompagné d'un soutien local. Et là, comme le soutien de certaines autorités se fait attendre, les artistes les plus reconnus prennent l'initiative et disent « bon, on ne va pas attendre de nos gouvernements que qui mettent la main à la poche, mais on va le faire nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment très positif. Avant, le succès se matérialisait par une installation en Occident. Maintenant, ça commence à être matérialisé par un retour au pays.
Et c'est ainsi que la peintre Bill Kuelani a créé les ateliers SAM à Brazzaville. En ce moment, à Dakar, elle accompagne avec le soutien du fonds Métis d'autres artistes africains en devenir pour qu'ils se confrontent aux réalités du marché à la biennale.
Oui, c'est ça l'idée qui me vient à l'idée en me disant que non, mais quoi faire pour les jeunes? Vendre à Brazza, c'est pas évident, ça c'est clair. Donc je pense qu'un artiste peut passer peut-être une année sans même vendre. Mais par contre, c'est depuis 2014 que j'emmène les artistes à la Biennale de Dakar. Donc il y a une certaine fidélité, les collectionneurs savent. Donc je pense que les gens, quand ils entendent parler des ateliers SAM, forcément ils viendront au rendez-vous. Donc on espère effectivement que les jeunes auront la possibilité de pouvoir vendre.
La Biennale de Dakar attend plus de 400 000 visiteurs d'ici le 7 décembre. Tous ne seront évidemment pas des acheteurs, mais chacun pourra constater la vigueur de la création artistique africaine.
L'Afrique en marche.
La 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar dans Afrique en marche aujourd'hui. Merci Frédéric Gara. À retrouver sur notre site www.rfi.fr. « 13h55, ici à Paris, l'heure de votre chronique 100% création. Julien Durand est un passionné de sport. Il a fondé avec deux de ses amis d'enfance Picture, une marque de vêtements techniques pour les activités de plein air. Il incarne une nouvelle génération d'entrepreneurs qui allie passion et conscience sociale. Grâce à sa marque, Julien Durand veut contribuer à changer la manière dont les vêtements techniques sont conçus, produits et consommés. Maria Afonso l'a rencontré.
Ce qui continue de nous inspirer, c'est de continuer d'être passionné des produits qu'on développe. C'est aussi ce côté communautaire qui continue d'alimenter la créativité, parce que même quand on pratique, on continue de créer.
Julien Durand, cofondateur de la marque de vêtements techniques pour les activités en plein air, Picture.
Le mot Picture est intéressant parce qu'il était anglicisé, il est en deux syllabes, hyper facilement mémorisable, dans tout un tas de langues. C'est presque un nom commun, et toute la dimension photographe artistique derrière l'image sur laquelle on pouvait jouer.
Julien Durand est né et a grandi à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Après avoir obtenu son diplôme en sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec sa passion pour la montagne, le ski, le snowboard, le skate ou encore le rugby, il s'oriente vers le management sportif. Après avoir travaillé dans de grandes entreprises, il ressent le besoin de donner du sens à son travail. Avec ses amis d'enfance, Jérémy Rochette et Vincent André, Julien Durand lance en 2008 une marque qui reflète leurs valeurs communes. L'engagement éthique et l'amour pour les sports de glisse.
Chez Picture, on a toujours su casser les codes, ne pas copier et ne pas faire comme tout le monde. On a toujours réussi à amener une petite touche design différente. Pantone couleur en rupture avec ce qui se fait mais qui reste hyper moderne. Un petit détail, une petite tirette très spécifique qui fait que dans le rayon, même si on est sur trois vestes noires étanches type Gore-Tex, eh ben la nôtre, elle va avoir un petit truc différenciant. On n'aime pas, mais par contre, en termes d'éthique de marque, de message de marque, nos haters crachent pas sur la marque et demain seront peut-être des lovers. Donc c'est pour ça qu'on a recruté des teams de designers plus jeunes et redynamisé le design pour que la marque ne vieillisse pas avec nous.
Selon Julien Durand, les projets ne manquent pas, ce qui favorise l'évolution de Picture et encourage à une consommation plus durable.
Quels usages vont être les usages de demain pour nos consos? Peut-être qu'aujourd'hui, chez Picture, on est capable de vous amener un set à louer sur une semaine. Comment on peut faire pour essayer de faire durer les produits plus longtemps? On offre la garantie réparabilité à vie parce que l'objectif, c'est de dire bah, le produit le plus éco, c'est celui que tu changes pas. À l'inverse, quand tu as un gros trou dans la veste, bah, c'est pas vraiment réparable. Et bah, on a créé des patchs pour augmenter sa durée de vie, que veuille dire quelque chose et que le mec continue d'appartenir à cette communauté et puis même ça devient un truc cool à avoir. Du coup, il fait durer un produit, il n'est pas obligé d'en acheter un autre.
Retrouvez l'univers de Picture sur RFI.fr chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
100% création également sur les réseaux sociaux et vous pouvez retrouver Picture en vidéo sur Instagram et Facebook. Afrique Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Émission réalisée par Benoît Raymond, attaché de production Pierre Vallée, Karine Frank à la rédaction en chef. Votre nouveau journal d'actualité dans un peu plus d'une minute trente, ce sera avec Karine Bellicha.
RFI, la sélection du mois.
Les frères Timal. Luigi.
Hey, t'es mi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille.
Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille, ton petit ami. Avec quand
RFI Musique.
On sera toujours heureux, tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée au groupe de parole.
Mardi,
comment le jeûne intermittent agit-il sur le poids et le vieillissement ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Une vague de colère contre la cherté de la vie secoue la Martinique depuis 2 mois. Comment résoudre ce problème récurrent dans les territoires d'outre-mer ? Est-il possible de transformer une économie de comptoir en place depuis la colonisation en économie productive et autonome ? La France doit-elle refonder sa relation à ses terres lointaines ?
Géopolitique, Chantal Leroux.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.